Depuis 1984, les Journées européennes du patrimoine ont lieu chaque année, le troisième week-end de septembre. Elles se donnent pour objectif de rendre accessible à un très large public l'histoire des lieux et de l'art, mais aussi peut-être d'interroger ce qui constitue, ou pas, un patrimoine commun. À Marseille, ces journées du patrimoine coïncident avec le 40e anniversaire de la zone industrielle d'Arnavant, située dans le quartier des Égalades. C'était l'occasion de s'intéresser à l'histoire industrielle de Marseille et aux traces patrimoniales qu'elle a laissées dans cette zone des Arnavant. On commence par un survol de l'histoire industrielle de Marseille depuis le 19e jusqu'à nos jours, en compagnie de l'historien Philippe Mioche et de son éditeur Olivier Lambert, co-auteur d'un ouvrage sur l'histoire de la zone d'Arnavant, à paraître ces jours-ci. Philippe Mioche.
La révolution industrielle s'amorce d'ailleurs assez précocement à Marseille. Hein. On retient à présent plutôt les années 1830 pour l'amorce de ce grand basculement qui a consisté à passer de l'artisanat à l'usine à grande échelle et progressivement.
Qui sont les entrepreneurs ? Alors, quel profil ont-ils ? Est-ce que ce sont les aristocrates reconvertis dans l'industrie ou la proto-industrie ? Ou bien est-ce que c'est l'apparition d'une nouvelle classe de bourgeoisie ?
À Marseille, nombre d'entre eux venaient du négoce et se reconvertis du négoce à la fabrication, à l'industrie. Et c'est très spectaculaire, notamment dans la zone des quartiers nord sur lequel nous avons travaillé, puisque... Là, c'était la campagne, hein. Jusque les années 1860-70, avec les grands aménagements. Vous évoquiez le rayonnement international du commerce marseillais. De ce point de vue, le canal de Suez est une étape tout à fait décisive, et le Second Empire, d'une façon générale.
Mais si, Olivier Lambert. Si on se replace à l'articulation entre le 18e et le 19e, c'est vrai qu'une partie des entrepreneurs que l'on va retrouver dans les années 1830-1840 sont déjà présents à la fin de l'Ancien Régime. Mais il y a un très fort renouvellement. Hein, c'est une des caractéristiques quand même... au niveau entrepreneurial, Marseille se renouvelle et renouvelle ses classes de dirigeants économiques.
Alors, pour qu'il y ait industrie, il faut qu'il y ait des entrepreneurs, il faut qu'il y ait des capitaux, ça on vient de l'évoquer, mais il faut aussi qu'il y ait du travail, il faut aussi qu'il y ait des travailleurs. Ce 19e siècle, il correspond aussi à des vagues de migration qui viennent apporter une main-d'œuvre abondante et probablement assez bon marché à Marseille. Le développement industriel de la ville tient aussi à cela ?
Bien sûr. La dialectique avec le marché du travail, et en l'occurrence avec l'immigration, est évidente. En précisant aussi une autre évidence, c'est que cette immigration est massivement celle de l'Italie de la misère. Hein. En 1900, il y avait plus d'Italiens à Marseille qu'il y en avait à Rome. Et effectivement, là où je parle de dialectique, c'est que, d'une part, c'était des consommateurs. Mais donc, il y a un enchaînement entre l'arrivée de ces immigrés et le développement des productions de masse, sachant que, comme vous l'avez mentionné, les pratiques dans Marseille en termes de salaire notamment et de précarité du travail étaient des pratiques de bas salaire, hein, les moyennes ont été calculées par rapport à l'agglomération lyonnaise ou a fortiori l'agglomération parisienne, les salaires étaient en moyenne plus bas à Marseille. Et aussi, une autre caractéristique qui me paraît importante, c'est que dans Marseille intramuros, il n'y a guère eu de déploiement de politiques dites paternalistes qui prenaient en charge les salariés en dehors du travail dans la manufacture.
Comment l'expliquez-vous ? Par rapport à ces industriels du Nord, voilà. De l'Est, de la Lorraine, etc.
Ça risque de ne pas être très gentil pour les entrepreneurs marseillais. Je crois qu'effectivement... Alors, il ne faut pas généraliser. Hein. Il y a eu des exemples, des contre-exemples. Mais globalement, les industriels marseillais ne portaient pas avec eux une sorte de vision de société comme le faisaient les grands paternalistes. Je pense aux Schneider, aux Creusot, ou alors les Vindel en Lorraine, ou d'autres encore. Et donc, c'était plus sauvage comme relation. Il y avait guère de prise en charge.
Sur la question du paternalisme, il y a quand même aussi des facteurs objectifs. Et on est sur sur une ville où domine la petite et moyenne entreprise déjà. Donc il n'est pas évident de faire la comparaison avec les grands maîtres de forge et les grands capitaines d'industrie. Ensuite, autre facteur objectif, ben, c'est que on est quand même, bon, on parle depuis tout à l'heure de Marseille intramuros, il y a un tissu urbain, il n'y a pas la nécessité d'apporter des services qui n'existeraient pas. Et en même temps aussi le fait que bon, on est dans un tissu urbain où il y a un fort réservoir de main d'œuvre, voilà. Donc il n'y a pas nécessité quelque part de fixer cette main d'œuvre. Si on se reporte à la fin du 19e siècle, par exemple, c'est vrai qu'il y a une forte mobilité des salariés. Un salarié ne reste pas nécessairement attaché à la même entreprise. Donc il faut, notamment dans des endroits comme Salon du Giraud, qui est un peu loin de tout, il faut faire en sorte que le salarié se sente quoi, bien, entre guillemets, mais qu'il dispose de tous les services pour qu'il puisse rester sur place, quoi.
Philippe. Quand même, le grand contre-exemple, c'est les compagnies privées des charbonnages du bassin de Provence. Hein. Dans la vision paternaliste, il y a un projet de société, mais il y a aussi une volonté de contrôler la main-d'œuvre. Et c'est vrai que quand il y a une main-d'œuvre abondante, le problème se pose moins. Et ça a été un peu l'inverse dans le bassin de l'Ignite de Provence, puisque là, il a fallu faire venir de la main-d'œuvre et très tôt, un certain nombre de sociétés ont développé des formes de paternalisme et notamment des cités pour loger les mineurs.
Vous venez d'évoquer à l'instant l'industrie du charbon. Effectivement, c'est un des grands domaines industriels qui se développe au cours du 19e siècle avec ses charbonnages de Provence. Mais on peut aussi citer, bien entendu, les huileries et savonneries, le sucre et puis les tuileries. C'est les grandes industries marseillaises qui se développent, ça, au 19e siècle.
Alors, on peut donner un exemple sur lequel nous venons de travailler récemment, donc j'en profite un peu, à propos de la tuilerie. Parce que là, la césure est très spectaculaire. Nous avions des dizaines, sinon des centaines, de petites entreprises artisanales qui étaient localisées notamment autour de Saint-Henri, hein, avec, vous savez, la grande carrière d'argile qui est devenue un centre commercial maintenant. Et la rupture se fait, et elle se fait à l'extérieur de Marseille, puisqu'elle se fait au Mille en 1882, et la construction de la tuilerie des Milles, qui est maintenant un patrimoine industriel, mais pour une autre raison, nous pourrons y revenir. Et c'est la première usine à l'échelle industrielle pour les tuiles et les briques, avec un four Hoffmann qui permet une production massive et qui marque la rupture donc dans cette industrie traditionnelle et son industrialisation.
Philippe a raison d'évoquer l'arrivée de la tuilerie des Milles, hein, qui est vraiment au début des années 1880, hein, qui apporte véritablement des innovations en termes de fabrication, mais déjà ces innovations étaient en place à Marseille, quoi. Parce que on raisonne sur des systèmes logiques, alors qu'il faut voir que sur la longue durée, c'est des avancées techniques progressives. Vous évoquiez là à l'instant toutes ces industries traditionnelles, mais ces industries dites traditionnelles, elles ne datent pas de la révolution industrielle, elles existaient auparavant, sous d'autres formes, avec d'autres produits.
Sauf que là, elles se mécanisent avec l'apparition de la machine à vapeur et leur production devient importante.
Elles se mécanisent. Si on va au-delà de l'appareil industriel, hein, en parlant de systèmes technologiques, ben, ces tuiles, même qui seront produites dans les grandes usines du bassin de Séan, qui seront connues aux quatre coins du monde, jusqu'à la Première Guerre mondiale, et ce qui fait la force du système aussi, hein, elles sont transportées par voilier.
Alors des huileries, des usines artisanales, des savonneries, des usines de raffinerie de sucre, des tuileries, on vient d'en parler, et puis sans doute la métallurgie présente, ne serait-ce qu'en fonction de la nécessité des réparations navales. Philippe ?
Alors la métallurgie, dans le sens construction mécanique, réparation navale, vous avez bien entendu raison, notamment la Ciotat, et dans la proximité, dans la zone d'Arinque, dans la proximité du port. Par contre, la sidérurgie, a une histoire un peu différente, hein, au sens de la fabrication de fonte, de fer et d'acier dans notre région. Alors il y a eu, bon, mais ça c'est pour mémoire, des tentatives antérieures à Austrel par exemple, mais en fait la première grande tentative en termes de fabrication de métal, là, c'est à Saint-Louis, les hauts fourneaux de Saint-Louis, hein, qui commence, je crois, vers 1830, si ma mémoire est bonne, et qui vont se spécialiser dans des fontes très particulières, haut de gamme d'ailleurs pour l'époque, hein, et qui vont connaître une existence entrepreneuriale un peu chaotique jusqu'à faire faillite en 1905.
Parallèlement à ce développement industriel, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on avance un petit peu dans notre chronologie, se développent bien entendu des mouvements ouvriers, peut-être particulièrement à Marseille, ville rebelle s'il en est.
Oui, il y a une tradition ouvrière très puissante qui a été d'ailleurs très bien étudiée, notamment par notre ami Robert Mancherini, et avec un mouvement syndical puissant, un mouvement communiste aussi qui se développe tout au long du XXe siècle. Hein. N'oublions pas que ça a été un fait marquant et avec des étapes très fortes comme les années qui ont suivi la libération et qui ont marqué l'histoire de ce territoire. Mais si vous me permettez, nous avons abordé différents facteurs de l'industrialisation. Nous avons parlé un peu des entrepreneurs, nous avons parlé un peu des salariés. Je voudrais pointer un autre facteur qui a été, c'est celui du lignite, hein, et non pas du charbon. Et la différence est importante, vous allez voir pourquoi. Parce qu'on peut affirmer que l'existence de ce vaste gisement est un des facteurs de l'industrialisation marseillaise et de la région. Pour toutes les industries, j'ai envie de dire un peu basiques, pas trop sophistiquées, c'était le combustible par excellence. Et il y a une histoire quand même tout à fait exceptionnelle, c'est l'affaire de la galerie à la mer, que je tiens à mentionner parce que c'est un coup de génie.
Qui relie les mines de Gardanne au port de Marseille sur une quarantaine de kilomètres à peu près.
C'est ça, et qui est un exploit du point de vue des travaux publics, hein, pour réaliser ce tunnel, et qui avait l'extraordinaire avantage d'amener directement le lignite au centre, au port de Marseille, au Cap Pinède, et puis en plus, ils avaient foré un puits qui permettait de le faire remonter à la surface directement. Alors, ce tunnel, cette galerie à la mer, est inaugurée, enfin, est en service à partir de 1905. Et donc, on va voir apparaître des entreprises, notamment autour du débouché de la galerie, qui se sont localisées là, très précisément là, parce que il y avait le lignite sous la main. Ça a été le cas de la centrale thermique de Cap Pinède. C'est le cas aussi de la grande usine d'alumine construite par les Suisses en 1906.
Dans un instant, les historiens Philippe Mioche et Olivier Lambert, le temps d'une visite guidée sur le site d'Arnavant, en compagnie de Christine Breton, conservateur du patrimoine, et d'Henri Cialano, qui nous décrit à quoi ressemblait ce site dans la première moitié du XXe siècle.
A connu la mise en place des bords, la construction des bords, qui est pour servir de
bassin, disons, et remplir.
Voilà, pour les déchets. Et sous ces déchets, il y a une maison. C'était la maison donc de monsieur et madame de Langlade, et c'était la Baume. Elle s'appelait la Baume. Et qu'il a connue parce que là habitaient donc les directeurs d'Alu Suisse, dans cette maison qui est sous le terril. Et lui était ami avec les enfants du directeur. Alors ici, c'est un très très vieux plan celui-là. Hein. Mmh. C'était en 1893, au moment de la fondation de l'usine Vattel. Donc l'usine, elle est toute petite, vous voyez, elle a déjà son grand territoire, mais elle est toute petite comme ça ici.
Alors, il semblerait que ce soit la partie huilerie, ça.
D'accord. Et alors regardez maintenant en 1953, c'est-à-dire 60 ans plus tard, ça nous donne ça. Regardez. Alors on est là comme ça, ben voilà. Donc le chemin des Égalades, avec le passage du chemin de fer ici, la gare, la petite gare ici, hein. Tout ça, on voit que les bâtiments SNCF se sont agrandis sur la partie supérieure. Et dans la partie inférieure, on retrouve le petit pavillon d'entrée de l'usine Vattel.
Tout à fait.
Et ces grands bâtiments qui sont les bâtiments de l'usine. Alors là, maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce que ça correspond à ce que vous avez connu ou pas ?
Oui, ça correspond à peu près. Alors là, ce serait l'huilerie. Là, ce serait la chaufferie. Là, ce serait la gélatine. Et là, le savon. Mmh. Là, il y avait les bureaux. Et ça, ce serait la maison où nous habitions.
Ah, ben, d'accord. Vous avez parlé de gélatine, donc ?
Oui, gélatine.
Ici, dans ce bâtiment-là ?
Non, ça, c'est l'huilerie. La gélatine, c'était ici.
Gélatine, c'est ici. Qu'est-ce que c'était que cette gélatine ?
Alors la gélatine, c'est un produit qui alimentaire, souvent, enfin, qui sert à faire des aliments et des colles. Alors, pour la produire, on en dissout des eaux dans de l'acide chlorhydrique. Et ces eaux venaient, paraît-il, des Indes. Les Indiens, enfin les Hindous, étaient grands vendeurs d'os. Et ces eaux arrivaient dans des sacs. Et alors, ici derrière, là, il y avait toute une série de cuves en béton, dans lesquels on mettait les eaux et l'acide chlorhydrique et on laissait ramollir les eaux et les dissoudre. Et après, on mettait ce bouillon dans des bacs que l'on mettait dans de l'eau pour les refroidir. Et cette gélatine prenait comme une gelée, comme on mange maintenant une gelée qui accompagne une charcuterie. Et bien, ça c'était dans ces bacs. Et ensuite, ces bacs était démoulé, on coupait cette gélatine en rectangle, en feuilles, on mettait ces feuilles sur des clés grillagées et on les envoyait au séchoir. Et il sortait une espèce de feuille déformée qui était de la gélatine séchée.
Les séchoirs étaient où sur le...
Les séchoirs étaient au-dessus, ici. Alors, le bâtiment avait deux étages. En dessous, il y avait la fabrication de la gélatine et au-dessus, les séchoirs.
Et l'huilerie, c'était une huilerie d'huile végétale ou d'huile animale ?
Végétale, certainement. Non, pas animale, c'est végétale. Mais ce n'était pas une véritable huilerie. On n'écrasait pas des graines pour faire de l'huile. On récupérait une espèce de saleté. Il y avait des morceaux, c'était noir, c'était... vraiment, on peut dire dégueulasse. Et dans cette saleté-là, c'était des fonds de cuve, vous voyez, qu'on ramassait. Et dans cette saleté, on l'a raffinée, on l'a réchauffée à 140 degrés, je crois, pour éliminer les bactéries. Et on faisait de l'huile propre, disons.
Et qui allait servir à quoi ?
Alors, qui allait servir à faire du savon.
À l'usine d'à côté.
À l'usine d'à côté, ou qui était revendu parce que des camions venaient charger de l'huile. Donc, il y avait d'autres savonneries, certainement, qui achetaient cette huile, de l'huile un peu régénérée, disons, pour faire du savon, je suppose. Je ne pense pas qu'elle serve à la consommation, au moins qu'elle n'était pas empoisonnée. Hein. Alors là, il y avait un bâtiment qui ne figure pas sur ce plan, dans lequel on fabriquait de la chaux éteinte, et puis probablement pour neutraliser les acides quelque part. Et puis, là, c'était la garrigue.
Et vous avez, de votre temps à vous, vous avez connu le moment où le terril est venu par-dessus la maison ?
Oui, oui.
Ah, vous avez connu ça ?
Oui.
Racontez.
Ah ben, le terril, ben, il ne savait plus où mettre... Parce que l'aluminium vient de la bauxite. La bauxite, c'est de l'alumine et de l'oxyde de fer. et le coquille de fer est un déchet, on ne sait plus où le mettre. Donc à l'époque, comme le directeur n'habitait certainement plus dans la maison, ils ont tout envahi. Petit à petit, ils ont monté des murs et puis ils ont rejeté, monté plutôt des tas, des barrages hein, de terre, et ils ont rempli tout ça. Et quand ça a été plein, alors ils ont acheté du terrain du côté de Berre, là-bas, et ils ont vidé leurs déchets là-bas. Et c'est ce qui a provoqué probablement un peu la mort de l'usine, c'est que en camion de trimballer les déchets de bauxite à Vitrolles là-bas, a fait que le prix de revient a dû augmenter sérieusement et ils n'ont plus pu tenir le coup.
Alors, une chose intéressante à savoir, c'est que juste de l'autre côté du talus, où il y a la voie PLM, qui est donc la voie de chemin de fer aujourd'hui, la ligne de Paris, hein, commençait un autre très très grand ensemble industriel, qui était les réservoirs d'hydrocarbures, justement, Jupiter, la société Jupiter. Vous avez connu ça, vous, dans les années 20, enfant ? Ça
alors,
vous parle,
ces grandes cuves ? Il me semble me souvenir qu'effectivement,
des voies de chemin de fer qui rentraient chez eux.
Quatre chemins des Égalades.
On est ici,
ici voilà. Là, il y avait un portail avec des réserves des cuves qui se réservent de pétrole ou je ne sais pas quoi.
C'est ça.
Ou d'essence.
C'est ça. La société Jupiter.
Et ils ont dû agrandir probablement après pour...
Absolument. Oui. Et c'était une des grandes fortunes de Marseille, des grandes familles grecques d'Istanbul. Mmh. Et ils étaient passés directement du blé qui rentrait au port de Marseille dans les grands silos, dont le silo d'ailleurs de la Joliette. Hein. Mmh. Et ils étaient passés donc directement du blé à l'hydrocarbure.
Oui.
C'est une grande transformation. Et ils étaient installés juste ici, à 100 mètres. Quoi.
Ils ont anticipé quoi. Mmh.
Donc on avait avec Alu Suisse une grande usine de niveau international et avec Jupiter une grande installation aussi de niveau international. Oui. Il faut vraiment se rendre compte de ça dans le paysage en fait. Hein.
On écoutait Christine Breton et Henri Cialano sur le site d'Arnavant. On retrouve maintenant Philippe Mioche, toujours à propos d'une des plus grandes usines à l'époque implantée sur ce site, à Alu Suisse.
Alu Suisse, alors Alu Suisse est un groupe helvétique, comme le nom l'indique. En vérité, quand ils se sont installés en France, ils ont un peu dissimulé leurs origines et ils ont eu raison, je vous expliquerai pourquoi. Ils se sont fait appeler Société Française d'Industrie de l'Alumine, la SFIA. Oui, alors, on va en parler.
C'est déjà des problèmes de fiscalité ?
Non. C'était des problèmes beaucoup plus graves, d'une certaine façon. Alors, j'enjambe pour accompagner votre question. Sachez d'abord que l'usine Alu Suisse des Arnavants, hein, aujourd'hui, a été, jusqu'en 1913, la plus grande usine d'alumine du monde. C'était vraiment une grosse unité. Il y avait jusqu'à 2000 salariés. Hein. Ils faisaient venir, ils avaient acheté des mines de bauxite dans le Var, et ils la transformaient là en alumine grâce à la galerie à la mer et le lignite qui venait de Yardane. Vous voyez le système ? Et le tour partait par voie ferrée vers la Suisse et vers les usines d'électrolyse suisses. Le problème qui s'est posé, évidemment, c'est que l'aluminium est un métal stratégique. Non pas qu'on fabriquait déjà des avions, ça viendra plus tard, mais pour envelopper les obus, etc. Et évidemment, la Suisse, à elle toute seule, n'absorbait pas sa production d'aluminium, elle la revendait à l'Allemagne. Donc, évidemment, pendant la Première Guerre mondiale, ça a fait l'objet d'un procès historique, et l'usine a été réquisitionnée par l'État français, parce qu'il ne s'agissait pas que notre alumine, si j'ose dire, fasse des obus pour tuer nos soldats. Et donc, elle a été administrée pendant la guerre par le groupe français Pechiney. Il a fallu un assez long procès pour que les Suisses retrouvent leurs droits en 1924, après la Première Guerre mondiale.
Mais il n'y a pas que l'alumine. Il y a par exemple, au bord de l'actuel boulevard du Capitaine Gèze, il y a eu un très vaste complexe destiné à la production de l'huilerie et du savon, les usines Rocat à Sidoux. Alors il est vrai qu'ensuite, lorsque ces activités industrielles vont connaître certaines difficultés. Il est vrai que bon, la zone va connaître des difficultés. Mais je pense que la zone est à l'image de l'économie marseillaise, hein, ni plus ni moins. Hein. Il n'y a pas de... Et puis ce qui est intéressant, c'est peut-être qu'en plus, elle est à l'image et on a un concentré de l'économie marseillaise sur, allez, sur 180-200 hectares.
Ce qui est quand même une surface assez considérable oui. aujourd'hui dans la ville. Comment est-ce qu'on on a articulé cette disparition progressive de ces grandes usines, de ces premières occupations du territoire, jusqu'à aujourd'hui cette zone d'Arnavant, enfin cette zone qui a 40 ans, qui a donc apparu dans les années 60. Est-ce qu'on a eu un phénomène de friche industrielle, d'usines abandonnées, qui ensuite était reprise par d'autres ?
Paradoxalement, c'est un premier point, et ça peut, bon, certains vont peut-être bondir, mais il n'y a jamais eu de friche industrielle.
Alors, se crée donc dans les années 60 une zone Arnavant. Qui sont les opérateurs de cette nouvelle création, recréation industrielle ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la zone qui deviendra Arnavant a valeur un peu de laboratoire en termes d'aménagement du territoire, parce que c'est la première zone d'activité qui va être créée dans la ville de Marseille et par les pouvoirs publics. Alors, si on veut chercher les origines, c'est vrai que depuis les années 1930 et aussi depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a des plans d'aménagement qui sont élaborés où on se dirige vers une politique de zonage. C'est-à-dire que, bon, jusqu'à présent, c'était une politique de laisser-aller. Bon, maintenant, il va falloir remettre de l'ordre dans le tissu urbain. Hein. On va remettre de l'ordre. Et les différentes fonctions urbaines, on va les organiser en zone. Donc en zone, qui dit zone, zone notamment pour les activités économiques. Et on parle surtout des activités industrielles, hein, qui sont les plus, entre guillemets, polluantes pour le tissu urbain. Donc le plan Baudouin de 1941 préconise la création d'une très grande zone industrielle dans le nord de Marseille, à peu près sur une partie du territoire que l'on connaît à l'heure actuelle, sauf que bon, dans le plan Baudouin de 41, la zone nord, Marseille-Nord, était beaucoup plus large, hein, à partir de la Belle de Mai jusqu'à la Viste. Et à la Libération, après la Seconde Guerre mondiale, les aménageurs reprennent ces travaux et reprennent l'idée d'établir une zone d'activité, une zone industrielle à cet endroit, tout simplement pour assurer le desserrement, ce qu'on appelle le desserrement, c'est-à-dire c'est des établissements industriels qui ont été rattrapés
l'urbanisation,
par la croissance urbaine, et qui fonctionne de plus en plus difficilement, donc, et pour faire en sorte aussi de regrouper tous ces établissements disséminés sur le territoire urbain, pour les regrouper dans un même lieu, donc dans cette zone industrielle. Bon, le projet est repris dès les années 1947, mais bon, après, c'est vrai qu'à cette période, les pouvoirs publics, notamment la ville de Marseille, n'a pas tous les moyens, notamment en termes de législation, pour mettre en place ce programme. Donc c'est vrai qu'il y a un premier échange avec la Chambre de commerce. Puis très vite, dans les années 1950, tous ces moyens sont mis en place par le législateur, et en même temps avec la Caisse des dépôts et consignations, des fonds destinés à l'aménagement. Et la ville de Marseille décide de créer une zone industrielle dans les années, en 1954, la décision est prise.
Est-ce que cette nouvelle zone industrielle fait table rase du passé et rase tous les anciens bâtiments, ou est-ce qu'on a déjà l'idée de conserver une certaine part du patrimoine architectural, notamment du patrimoine industriel ?
Alors, la zone industrielle, son territoire et les parcelles qui sont acquises par la ville, ce sont des parcelles qui n'étaient pas occupées. Hein. Donc, vous avez l'huilerie Savonnerie Rocatassi de Roux reste à cet emplacement. À l'autre extrémité, on a les ateliers mécaniques du Clos qui deviendront terrain technique industrie plus tard. Et à l'autre bout, on a l'U-Suisse. Donc c'est vrai que dans cet espace, il y a à peu près 37, au début, ça portait, oui, sur 37 hectares aménagés. Donc c'est essentiellement à la fois quelques campagnes, quelques terrains vagues, et puis aussi l'ancien couvent de la Visitation.
Voilà. Depuis la fin des années 70, on a vu l'activité industrielle de Marseille se développer un petit peu vers l'ouest, en l'occurrence plutôt autour de Fos-sur-Mer. Comment est-ce que survit aujourd'hui, vit ou survit cette zone industrielle qui devient un petit peu enclavée dans la ville, dans le tissu urbain, alors même que l'activité, le gros de l'activité industrielle est quand même à 40 km de là vers Fos?
Bon, je commence à répondre, Olivier, vous compléterez. En vérité, en ce qui concerne la zone d'Arnavant, vous avez tout à fait raison. Il y a une dialectique avec l'industrialisation du golfe autour de Fos, notamment, qui est une extension du port de Marseille, rappelons-le, qui a vu diminuer d'autant, j'ai envie de dire, un certain nombre d'activités de type industriel dans la zone d'Arnavant. Alors aujourd'hui, et Olivier a étudié ça en détail, il n'y a plus tant de fabrication, elles sont très minoritaires. Hein. Il y a encore notamment quelques opérateurs de chimie. Et c'est surtout pour l'essentiel des activités de négoce, de logistique.
Il y a quand même une originalité de cette zone, c'est une zone que je qualifierais de polyactivité. C'est véritablement ce qui fait son caractère original. C'est qu'on retrouve un peu de tout. C'est vrai que l'industrie n'a plus la place qui était la sienne il y a quelques décennies, mais quand même, c'est 20% de l'emploi salarié. Ramener ça aux chiffres de Marseille où on est à 5%, même aux chiffres du département des Bouches-du-Rhône où on est à 6-7%, polyactivité, donc industrie, toujours 20%, de fortes activités également de commerce, en gros, du transport et de la logistique, bien entendu, un fort secteur du bâtiment, un fort secteur de la construction, et également du tertiaire, du service aux entreprises.
Est-ce que ces nouvelles activités, plutôt dans le secteur tertiaire donc, génèrent quand même suffisamment de main-d'œuvre par rapport aux anciennes activités industrielles qui, j'imagine, en consommaient beaucoup?
Oui. Il y a quand même, si on prend sur des indicateurs macroéconomiques, c'est assez curieux, c'est que depuis la fin des années 1970, puisque auparavant il est plus délicat de faire des comparaisons parce que la zone était beaucoup plus restreinte, mais on est toujours sur des chiffres de l'emploi identiques, à peu près 8000 salariés, et ça n'a pas changé.
Oui, l'industrie se transforme, mais elle ne disparaît pas.
Aude Vandenbroek, secrétaire générale d'Arnavant.
Donc Aude, juste une question. Comment s'appelle cette partie-là maintenant de Arnavant ?
Ça s'appelle Marseille Industrie. C'est donc un parc d'activités avec essentiellement des entreprises qui sont sur du commerce et de la fourniture industrielle ou de la maintenance industrielle.
Ça signifie que sur cette zone, il n'y a plus d'industrie de transformation, d'industrie lourde, pourrait-on dire ?
Non, il reste en gros, ce qui reste, c'est Haribo, bien connu, Saint-Louis Sucre, avec les difficultés dont on parle aujourd'hui, malheureusement. Pernod, qui reste le dernier site au niveau de Marseille de production d'alcool anisé. Voilà, en gros, les trois gros symboles industriels qui restent aujourd'hui sur la zone d'Arnavant. Et on voit arriver de la tertiarisation qui côtoie donc du commerce industriel, de la petite industrie et encore un peu de transport logistique.
Battons, j'emploie le terme, si vous me permettez.
Philippe Mioche.
Avec une association qui s'appelle Mémoire Industrie Patrimoine en Provence et qui publie une revue qui s'appelle Industrie en Provence et qui a vocation à valoriser l'histoire, la mémoire et le patrimoine industriel. Et donc, il y a ce concept central de patrimoine industriel, c'est-à-dire ce patrimoine immobilier, ces bâtiments qui ont été des lieux d'industrie et qui ne sont plus en activité. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? Bien sûr, il ne s'agit pas de tout garder, c'est évidemment impossible, mais il est tout à fait essentiel qu'on conserve la place de cette histoire, c'est nos racines. Marseille a été une grande ville industrielle. Il est essentiel qu'on garde nos racines de ce point de vue.
Je l'évoquais au début de cette édition, vous êtes respectivement auteur et éditeur d'un livre à paraître sur l'histoire industrielle de Marseille, mais plus spécifiquement sur cette zone des Arnavants. Comment sera intitulé cet ouvrage et quand va-t-il paraître exactement ? Peut-être à l'éditeur, Olivier.
Oui. Alors pour l'instant, ça n'a pas changé, le titre c'est Arnavant, 40 liens dans la cité. Et sa parution est prévue pour la mi-septembre.
Il y aura toute une série de manifestations, notamment les 16 et 17 septembre, à l'occasion de la journée du patrimoine sur le site.
On en reparlera sur cette antenne. Merci Philippe Nioche, merci Olivier Lambert. Jean-Paul Roch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président d'Arnavant, zone d'activité industrielle, qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Qu'avez-vous l'intention de proposer à cette occasion ?
Alors, le rendez-vous, c'est donc le 17 septembre, à 16h, précise. Le premier temps sera sur l'avenue des Égalades, au 225 avenue des Égalades, sur le site de la Cité des Arts de la Rue. Et Générique Vapeur va ériger le totem de la Cité des Arts de la Rue. Et à cette occasion, nous signerons un partenariat entre Arnavant, donc zone d'entrepreneurs, avec la Cité des Arts de la Rue. Alors attention, c'est un chantier actuellement, il y a peu de place, donc il est nécessaire de s'inscrire sur le site d'Arnavant.
Et puis un projet d'édition qui est en cours et que vous soutenez, je crois, un projet réalisé par l'historien Philippe Nioche et son éditeur Olivier Lambert, que nous avons reçu dans cette émission.
Alors effectivement, nous avons souhaité, avec le conseil d'administration d'Arnavant, marquer ces 40 ans par un ouvrage qu'on a voulu à la fois historique et à la fois actuel. Donc effectivement, Philippe Mioche, Olivier Lambert et Marc Massoni ont travaillé sur cet ouvrage pendant de nombreux mois. Alors ça sera le troisième temps qui aura lieu à 18h, donc à la mairie des 15e et 16e arrondissements. Mais entre les deux, le deuxième temps, ça sera une balade glorieuse qui aura lieu, elle, avenue des Égalades, à l'angle de l'avenue Paul Héroux. Et nous monterons sur le tertre des Bouts Rouges, donc les résidus de l'usine d'alumine qui était la plus grande usine d'alumine au monde dans les années 1910. Et à partir de là, Christine Breton nous fera une découverte de l'histoire des entreprises.
Et toujours dans le cadre de ces manifestations autour des 40 ans d'Arnavant, une exposition photographique, je crois, au caractère assez exceptionnel.
Oui, tout à fait, puisque ce sont des photos qui ont été tirées à partir de plaques de verre que nous avons récupérées auprès du directeur de la Cinémathèque, que nous avons triées avec soin avec Philippe Mioche, et 30 tirages complètement inédits de la zone, mais également et surtout de l'usine d'alumine à Lussuisse, seront exposés à la Villa Auranti, donc à la mairie des 15-16e. Et pour faire un parallèle entre le passé et le présent, il y aura également une exposition de peinture de 30 entrepreneurs de la zone, 30 entrepreneurs actuels, sur des portraits effectués par Blanche Malval, qui est une artiste peintre marseillaise qui fait des portraits dans le style pop art, un peu à la Andy Warhol. Donc d'un côté les 30 photos, d'autre côté une vingtaine de portraits d'entreprises actuelles.
Ces manifestations s'inscrivent en parallèle ou en préfiguration des journées du patrimoine. Pensez-vous que le patrimoine industriel de la ville de Marseille, ou peut-être en général, mériterait d'être mieux valorisé? Et si oui, comment?
Alors, le patrimoine industriel de Marseille, c'est vrai que est souvent méconnu. On a une petite idée quand on parle de savonnerie, et à ce titre, le savon de Marseille a parfois été galvaudé, puisqu'il n'y a pas de marque déposée. Et Gilbert Latour, qui est un de nos adhérents, veut défendre ce patrimoine, parce que c'est vraiment le patrimoine marseillais. Les apéritifs anisés en sont un autre exemple. Mais c'est vrai que cette mémoire industrielle, tout ce qui a été fait grâce à l'arrivée de l'eau et du charbon de Gardanne par le tunnel à la mer, mérite une diffusion plus large, et je pense donne un éclairage différent sur ces quartiers industrieux, mais qui ont été aussi des campagnes juste avant.
Quelles sont les perspectives d'Arnavant, de la zone d'Arnavant? Est-ce que c'est une perspective d'extension, malgré le fait qu'elle soit encadrée par le tissu urbain, ou bien peut-être d'une forme de repli de voilure, à la fois eu égard aux difficultés liées à la crise, peut-être eu égard aux problématiques liées à l'immobilier à Marseille, à la spéculation immobilière éventuellement, qui intervient dans les quartiers nord, ou peut-être encore tout simplement au déplacement d'activités depuis les quartiers nord de Marseille vers la zone de fosse.
Alors, il est vrai qu'on pourrait penser que tout peut être regroupé sur Fos-sur-Mer dès l'instant où c'est industriel ou dès l'instant où ça a des contraintes environnementales fortes. Je pense à des classifications Seveso, par exemple. Nous n'avons qu'une seule entreprise qui est spécialiste du soufre, qui s'appelle Cerex Agri, qui est dans ce cas-là, mais qui pour l'instant reste sur la zone d'Arnavant. Bien qu'ils aient été rachetés récemment par des Indiens. Il se trouve ensuite que le périmètre, vous l'avez dit, n'est pas extensible, donc nous n'avons pas de friche industrielle disponible. Ça a été vu par des étudiants de l'école Euromed Management qui ont fait une étude très précise sur ce point et qui a conduit qu'une seule friche industrielle existe, c'est justement le tertre des Bourrouges avec ses 4 hectares et demi, qui pourrait, lorsqu'il sera dépollué, nettoyé, être rendu soit de l'activité industrielle, soit à de l'activité commerciale, soit éventuellement à de l'habitation. Alors, en revanche, ce dont je suis persuadé, c'est qu'Arnavant a un rôle à jouer dans les nouvelles interfaces entre la ville et l'activité commerciale et industrielle, parce que quand on regarde la position du marché d'intérêt national, du mine des Arnavaux, qui est contigu d'Arnavant, on s'aperçoit qu'il est nécessaire, compte tenu que nous n'avons pas de banlieue, que tout ce qui est approvisionnement non alimentaire soit également inclus dans la ville, si on veut éviter, et là dans une vision environnementale, de nombreux allers-retours de véhicules entre peut-être Vitrolles ou plan de campagne et Marseille intramuros.
Vous êtes donc optimiste sur le développement de cette zone et sa place dans la cité?
Alors, je suis complètement optimiste sur le développement de cette zone ou son maintien. Elle a 40 ans d'existence, elle a traversé des crises. En revanche, ce dont je suis persuadé, c'est que nous allons faire alliance avec nos voisins immédiats, et particulièrement avec les entrepreneurs de zone franche, la première zone franche, et essayer de ramener près de nous les entrepreneurs de la seconde zone franche, qui ne sont pas aujourd'hui représentés dans une association, de façon à avoir un poids et une taille critique plus importante, puisqu'à ce moment-là, nous représenterions 5000 entreprises et 30 000 emplois de tout ce quartier nord de Marseille. C'est dire combien il est important sur le plan de l'activité et sur le plan de l'emploi dans ces quartiers.
Merci Jean-Paul Roch.
Arnavant fête ses 40 ans, c'est le 17 septembre à partir de 16h avec 4 rendez-vous à la Cité des Arts de la Rue, avenue des Égalades, au parc Billou et à la mairie des 15-16e arrondissements. Infos et réservations sur le site www.arnavant.com ou bien en appelant le 04 91 02 83 03. Et le dimanche 20 septembre de 14h à 16h, nouvelle balade sur ce site avec Christine Breton. Toutes les infos sont sur le site des Journées européennes du patrimoine bestboot.free.fr.